fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais.
Ce morceau est en lice ce soir pour la meilleure chanson originale de l'année aux Victoires de la musique. Le premier album de Zao de Sagazan porte aussi ce titre, La Symphonie des éclairs. Et il est en lice ce soir pour le meilleur album de l'année aux Victoires de la musique. Je ne sais pas comment ce disque est arrivé jusqu'aux oreilles d'Iggy Pop. En tout cas, il en a parlé dans son émission sur la BBC. Sa voix à lui, pour le plaisir de l'entendre prononcer son nom à elle, en ouverture de Totemic.
She's called Zao de Sagazan. She can sing, she can write, and she got a lot to say, and she can play a piano too. This is the opening number on her La Symphonie des Éclairs album.
Une échappée à Nantes dans le studio de Zao de Sagazan, c'est Totemic. Elle a 15 ans, les cheveux longs, les joues rondes. Il y a une fenêtre derrière elle, un piano sous ses doigts. Elle ferme les yeux et chante aussi fort qu'elle peut. C'est la première vidéo que Zao de Sagazan a postée sur Instagram il y a 9 ans. Elle a utilisé ce réseau comme un terrain de jeu. En parcourant ses publications comme on remonte le temps, on se dit que très tôt, Zao de Sagazan s'est fixé le cap suivant. Le meilleur moyen pour être bon, c'est de faire. Alors elle essaie des trucs, trouve, se plante, et pas à pas se construit son univers, sa voix, à l'articulation nette. D'un morceau à l'autre, elle vous enveloppe, ou elle vous toise, avec des chansons spirales, belles et inquiétantes. Ces chansons sont réunies dans un premier album sorti il y a un peu plus d'un an, c'est donc La Symphonie des éclairs, et ce soir, Zao de Sagazan est nommée aux Victoires de la musique dans 5 catégories, dont celle de la révélation féminine et du meilleur album de l'année. J'ai retrouvé Zao de Sagazan à Nantes. Arrivée à la gare, prenez le bus numéro 5, boulevard Léon Bureau. Elle m'attend.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Tu connais Nantes un peu ou pas du tout?
Pas du tout. Et là, on est où?
Là, on est à Trempeau. On est dans mon studio.
D'accord.
Enfin, dans notre studio, tu vois. Notre nouveau studio, parce qu'on n'y était pas avant. On est là depuis un mois. Sur l'île de Nantes.
Cinquième étage.
À côté donc de l'éléphant, etc. Qu'on connaît, les machines de l'île.
Elle me dit, les garçons sont là. On a enregistré une reprise pour Totemic ce matin. Les garçons sont Pierre et Alexis, producteurs de l'album de Zao de Sagazan. Ils l'accompagnent aussi sur scène.
Nous voilà dans le studio rouge.
Ok.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
On vous vire de votre propre...
Mais non, c'est
toléré. Je base, du coup, si vous voulez sortir, c'est possible quand même. Hein.
Oui, oui, très bien.
Ah oui, on n'est pas enfermé là, en fait.
Voilà. Non, okay. Non.
À toutes.
À toutes.
Allez, bisous.
À toutes.
Oui, on les a virés, en fait.
On les a complètement virés. Les pauvres. Mais t'as vu comme ils sont mignons.
On va donner leur nom.
Bien sûr, Pierre et Alexis. Pierre Cheguillaume et Alexis Delon. Mes deux producteurs à qui j'ai fait tout l'album, tout le live, toute la musique. Ils font et moi je dis attends, non, plus comme ça change de truc. Et moi je fais les mélodies, je compose, etc. Mais eux, ils ont vraiment ramené toute cette technique-là, de la musique électronique que je n'ai pas. Moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces machines-là, c'est surtout le son, mais pas comment le faire. Et donc eux, ils savaient le faire. Et je disais non, ce son n'est pas assez rond, ce son n'est pas. Donc je leur envoyais plein d'informations. Ouais, des informations, tu tentes, non ça c'est trop, je sais pas, c'est trop piquant, des fois au début ça veut rien dire, ça, mais si, parce que là ça pique, mais c'est bon, bref, donc ça a été très compliqué, et maintenant on fait plein de musique et c'est beaucoup plus simple. Je serais incapable de faire du studio avec quelqu'un d'autre, enfin, en tout cas ça prendrait beaucoup plus de temps.
Sachant que vous, au départ, avant d'être complètement mobilisé par la chanson et la musique, vous avez été auxiliaire de vie.
Oui, j'étais en auxiliaire de vie à domicile.
Vous avez appris quoi de cette expérience-là?
Plein de choses. Je pense que c'est très important, surtout pour une personne comme moi qui a commencé à faire de son métier, bah, sa passion, enfin sa passion de son métier. Non, je sais pas comment on dit, bon bref.
On a compris,
voilà. En plus, ça s'est quand même passé assez rapidement. J'ai pas galéré 10 ans à me faire connaître. Je suis là chez Totemic ce matin. C'est important quand on a autant de chance et que ce qui arrive, c'est de vivre quelques petites claques avant. C'est un métier très compliqué, au cœur de vie. Très dur physiquement et mentalement. T'es tout seul. La plupart du temps, face à des vieux qui n'ont pas envie que tu sois là, parce que c'est pour une faire la toilette et que ça fait mal de faire la toilette et qu'ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Pour autant, tu es là pour leur bien. Tu es extrêmement mal payé. C'est quand même des métiers fondamentaux, on ne peut pas vivre sans, qui regroupe juste des gens d'une générosité, on ne sait pas d'où elle sort, mais qui ont décidé de le faire pour la simple et bonne raison de rendre heureux les gens, parce qu'ils sont ni reconnus, ni bien payés, épuisés, et voilà. Mais quand tu as donné 30 minutes de ton temps et que tu as donné toute ton énergie à pousser ce corps et à essayer de le faire rire alors qu'il allait mal et que ça le faisait mal que de se faire laver et que tu le fais rire. Et au bout d'un moment, il rigole et il est content. Et là, tu te dis, voilà, j'ai réussi. Donc voilà, donc je trouve que c'est un métier merveilleux qui te permet de t'oublier un petit peu. Là où mon métier, à l'inverse, on te ramène toujours au fait que tu es extraordinaire. C'est à peu près l'opposé de ce que je fais maintenant. Pour autant, ça a quand même un but assez similaire. Sauf si tu fais pas ça pour la bonne raison. Si tu fais ça pour avoir du fric et pour qu'on te regarde, là, c'est pas similaire avec Coussière de vie. Par contre, si tu le fais uniquement pour faire une belle chose et faire du bien aux autres, c'est à peu près la même chose. Par contre, t'es mieux payé, généralement, si ça marche. T'es applaudi, tu le fais avec plein de gens, voilà. Donc ça m'a fait juste me dire que je sais pourquoi je le fais et de surtout regarder les gens qui font des petits boulots, comme on dit, d'une manière différente. Qui fait que tu deviens pas snob de ce qui t'arrive. Parce que je pense que tout humain s'habitue à tout. Et qu'on peut s'habituer au fait que c'est normal d'être payé pour faire de la musique. Donc voilà.
Dans quelle pièce ça a commencé pour vous, la musique ? Là, on est dans un studio. Mais au départ, ça a commencé où ?
À la maison, chez les parents. Ça a commencé dans une... à mon piano, un piano complètement désaccordé. Dans le salon, il y a la cheminée, mais donc quand elle n'est pas allumée, il fait un froid de gueux. Et donc voilà, donc ça a commencé dans cette pièce très souvent vide, ce qui m'a permis de chanter aussi fort que je voulais parce que personne ne m'entendait, ce qui était quand même assez merveilleux. Voilà, un piano désaccordé dans une pièce froide, mais en même temps très 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 chaleureuse, en tout cas selon moi.
J'ai peur de pas savoir quoi faire, de dire des mots de travers, mais de quoi je vais avoir l'air. J'ai peur de dire n'importe quoi, de passer pour je ne sais quoi. Qu'allez-vous retenir de moi ? 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 Qu'allez-vous retenir de moi ?
Ce morceau est celui qui clôt le premier album de Zao de Sagazan et parfois c'est aussi celui qui arrive vers la fin des concerts, quand la salle est chauffée à blanc, que le public est debout pour danser, chanter, la suivre. Ne te regarde pas, c'est le titre de cette chanson et ça pourrait être le mantra du disque tout entier. Les premiers pas de Zao de Sagazan comme chanteuse sont apparus sur Instagram il y a 9 ans, donc elle s'enregistrait et se filmait en même temps.
Je ne me suis pas filmée pour m'exposer, je me suis filmée pour me voir, pour me regarder, pour m'entendre. Parce que
pourquoi c'était aussi important de se voir que de s'écouter ? Pourquoi pas simplement
ça ? Je pense que ce n'était pas tant se voir. Au début, c'était vraiment je filmais parce que c'était une manière, j'aurais pu faire ça avec un micro, mais j'avais un petit iPad et donc je filmais là-dessus. Ça me permettait déjà de retenir tout ce que je faisais. Parce qu'en fait, en gros, je mettais play, je faisais plein de trucs et j'improvisais beaucoup. Et des fois, je me disais, oh, ça c'est bien, c'est intéressant, etc. Mais de base, ce n'était pas du tout pour le montrer au monde. C'était vraiment pour moi pouvoir écouter et pouvoir analyser et me dire comment est-ce qu'il faut que je change pour que ce soit mieux. Et c'est là où j'ai compris que dès que t'articules, c'est beaucoup plus joli, dès que tu respires, dès que tu mets un petit grain, tu vois, tu découvres ta voix et au début, ta voix, tu la connais pas. Donc bah, moi, c'était je devais m'écouter. Donc je me suis beaucoup écoutée et au bout d'un moment, je sais pas, je me suis dit, ce moment, il est marrant, je le mets sur Instagram. Mais j'avais 3 copains qui me suivaient et ils me disaient, oh, c'est trop bien, vas-y, continue, on aime bien. Je partage un petit... Je crois qu'en plus, la première vidéo que j'ai mise, c'est plutôt une vidéo où je fais une fausse note. Et je trouvais très marrant parce que j'ai tout donné. Et là, tout d'un coup, à la fin, c'est ridicule, je fais une fausse note. Et ils ont tous trouvé ça très drôle. Et en même temps, ils me disaient, ah, mais par contre, tu chantes bien et tout. C'est pas juste drôle, quoi. Et voilà, ça part de ça.
Au fond, c'est assez neuf, cette simplicité. C'est beaucoup lié à votre génération, je trouve. De mettre des premiers essais sur Instagram, d'exposer ses erreurs, désacraliser la chose. Moi, j'ai l'impression que c'est très neuf, ouais.
Bah effectivement, je pense que pendant très longtemps, j'en sais rien, j'étais pas là avant, mais il y avait un petit côté mystification de l'artiste, quoi. Et aussi, surtout, mystification de l'art en général. C'est-à-dire que on ne voyait pas l'art se faire, on voyait l'art fait. Il y avait un côté...
Tout était magnifié.
Voilà, exactement. Enfin, en fait, moi, je trouve pas que ce soit très inspirant. C'est beau, mais ça ne donne pas envie de le faire, parce que ça te donne juste l'impression que c'est impossible à faire et que eux, ces gens, le savent le faire. Et moi, je suis pas là pour que les gens se disent « qu'est-ce qu'elle est talentueuse ». J'ai envie que les gens, quand ils m'écoutent, ils se disent « j'ai envie de faire pareil, et je peux, et je vais le faire, et je vais bosser comme une malade, et je vais y arriver ». J'ai plus envie d'inspirer les gens dans le sens... Si tu viens à un concert juste pour regarder quelqu'un qui est mille fois mieux que toi et que tu idéalises et que tu vois oh, « mon Dieu, c'est pas possible ». Bon, bon, très bien, moi je préfère qu'il voit quelqu'un, une jeune fille complètement libre qui a tout donné avec ses copains et qui se dise « bah vas-y, moi je vais faire pareil ». Quoi. C'est ça qui est intéressant, je crois. Voilà.
Qui vous a donné cette sensation-là à vous? Qui vous a fait dire « moi je veux faire ça »
Ouais, moi c'est il y a une évidence. Moi c'est Tom Odell, un musicien britannique qui fait du piano. Que j'ai découvert quand j'avais 13 ans, période où je n'allais pas bien et où je ressentais beaucoup d'émotions comme maintenant, mais que je ne savais pas gérer. Et j'ai découvert le travail de Tom Odell, comme beaucoup, par son tube Another Love.
On va l'écouter.
Bien sûr.
Et comme ça, on va continuer à parler dessus.
Donc là, on est en 2012.
Non, 2012. Oh là là. Magnifique. Moi, j'entends ça, je suis dans le jardin. Ma sœur jumelle écoute ça à fond dans sa chambre. Et je me disais, c'est magnifique, c'est quoi ce truc? Je cours. Keita, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je sais pas. Non, mais dis-moi, c'est quoi le titre? Another Love de Tom Odell. Je cours autre part dans ma chambre pour aller écouter sur YouTube. Et là, je rentre dans un tourbillon de folie, où je découvre l'art de Tom Odell et j'ai l'impression qu'il parle ma langue, qu'il est aussi triste que moi et qu'il y a une différence, c'est que lui il exprime de la bonne façon, que moi je l'exprime en pleurant et que lui il l'exprime en chantant. Je le vois, il a son piano, il crie comme un malade. Il est... Puis des fois, il chuchote, des fois, il crie, il pleure. Mais en tout cas, il a l'air de pleurer sur ce piano. Et là, je prends conscience que j'ai le même piano dans le salon. J'y ai touché quand j'avais 10 ans, mais j'en avais rien à faire parce qu'on me demandait de faire du Mozart dessus. Et ça ne me parlait pas. Et là, tout d'un coup, je me dis qu'il y a peut-être que j'y retourne. J'y retourne, je chante Can't Pretend de Tom Odell, et là...
La révélation.
Révélation. Je n'en partirai jamais, plus jamais. Voilà, je prends conscience que c'est le meilleur endroit du monde, et surtout que ça me fait un bien fou, quoi. Je sors tout ce que j'ai sur le cœur, plutôt que de le sortir en pleurant...
Bah dis donc, vous avez pleuré beaucoup, vous.
Bah oui, moi je pleurais tout le temps. Il y a une période où mes parents me disaient « mais on n'en peut plus, je sais pas pourquoi tu pleures tout le temps ». Je pleurais pour un tout, pour un rien, mais je pleurais pas pour la chose qui se passait, je pleurais parce qu'il y avait un truc en tout cas qui devait sortir. Et je l'ai sorti sur le piano. Merci Tom Odell.
Et avec des mots, parce que ce qui vraiment fait votre singularité, c'est à la fois votre voix, cet univers qui mêle le cabaret, mais aussi de l'électronique et de la chanson française. Donc il y a aussi tout un travail sur le texte, sur la chanson à texte.
Complètement, mais ça viendra après. C'est quand je décide enfin de m'éloigner de ce yaourt anglais, où je disais « You want me feeling kind ?» Je dis n'importe quoi, je m'en foutais, je voulais juste chanter et en faire des mélodies. Et quand je découvre que je peux chanter en français, et que je peux dire des choses, parce que c'est un exercice difficile la discussion, parce que tu dois trouver les mots directement quand tu discutes avec quelqu'un. Là, typiquement, l'interview, il faut que je trouve mes mots directement. Mmh. Et sûrement, peut-être que je vais sortir de cette interview et me dire « putain, mais j'aurais pu dire ça ». Il faut trouver les mots directement. Et là, tout d'un coup, je découvre par la chanson que je peux prendre 6 ans à trouver les bons mots. Mais à la fin, ce sera les mots exactement que je veux. Et l'idée, c'est que les autres s'y retrouvent et aient l'impression qu'on a écrit à leur place.
Et partir de soi pour parler aux autres, quoi.
Exactement. Le métier d'artiste, c'est ça.
Extrait de Mon corps, chanson qui figure sur la Symphonie des éclairs, premier album de Zaoud de Sagazan.
Mon corps, je t'oublie trop. Je te regarde pas là où il faut. Mon corps, j'examine tes bords.
Pour une chanson comme Mon corps, par exemple, vous vouliez éviter quoi ?
Je voulais éviter absolument que des gens qui ont le même rapport au corps que moi, c'est-à-dire qui ne l'aiment pas, qui ne se sentent pas bien dedans, se sentent exclus, car c'était pas la même raison qui faisait qu'ils n'aimaient pas ce corps. Moi, je n'aimais pas mon corps parce que je le trouvais trop gros. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur corps parce qu'ils se trouvent trop petits. Ou parce que... Ils ont des boutons, ou parce que des fois il n'y a même pas de raison, mais voilà. Quand je dis je n'aime pas ton dehors, ben on ne sait pas à quoi il ressemble ce dehors. Et donc toute personne qui n'aime pas son dehors, en fait, peut y penser. Moi c'était une chanson, de toute façon je ne voulais pas que ça parle de tu es belle en fait. Non, je ne cherche pas à être belle, je cherche à m'éloigner de cette envie d'être belle. Parce que j'étais obsédée par l'idée que c'était... Mais tellement important d'être belle et de se sentir belle. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas du tout une chanson body positive, dans le sens, on est tous beaux. C'est une chanson qui dit, on s'en fout d'être beau. L'intérêt, c'est pas le dehors, c'est le dedans. Et arrête de regarder ton dehors, parce que moi, je m'affamais pour être belle en dehors, mais du coup, mon dedans, il était... Il souffrait. Ou alors, à l'inverse, je mangeais comme une folle parce que j'étais triste et là, mon dedans souffrait aussi. Et je fumais des joints, il souffrait. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais tu es complètement superficielle. Tu penses qu'à ton dehors et tu fais un mal fou à ce qui est le plus important, c'est-à-dire ta machine, celle qui te fait avancer, etc. Et tu te trompes de combat, en tout cas. Et donc, ce que je voulais dire, c'était le combat le plus important, c'était de remettre au centre ce qui est important, c'est le corps, évidemment. Mais le corps, comme on l'entend, c'est-à-dire des cellules et pas un tableau fait pour être désiré, quoi.
Elle, quand même, l'industrie du disque, elle repose vachement là-dessus, quand même. C'est-à-dire, tout ce qui relève de l'image, de la séduction, qui correspond quand même à certains codes, ça, c'est extrêmement puissant dans le domaine où vous vous êtes engagé.
Complètement. Mais après, c'est à moi d'essayer de... Je dis pas que je vais faire exprès de mettre une mauvaise light... de mettre des vêtements qui me vont pas parce qu'on s'en fout d'être beau. Par contre, je vais pas chercher juste à être belle. Et il y a plein de choses qui rendent beau. Autre que juste, est-ce que j'ai un bourrelet trop ou pas ? Moi, je suis devenue belle quand j'ai commencé à être sur scène, à danser, à arrêter de me regarder et à le faire bouger ce corps comme il faut, à effectivement l'habiller comme il faut, etc. Peut-être, mais en tout cas, à pas juste me dire « il faut que je sois jolie ». Non, il faut que je sois libre, il faut que je sois intéressante, il faut que je fasse des gueules qu'on n'a pas vues, il faut que... Et qu'en fait, c'est quand on dit on devient beau, quand on prend confiance en soi, c'est surtout quand on se sort de juste l'impression qu'on doit être aussi beau que celle d'à côté, etc. Que non, trouver nous notre singularité à nous, et qu'est-ce qui fait qu'on va être différent et intéressant.
Et ça, vous le dites en deux phrases dans une chanson, c'est « ne te regarde pas, lâche-toi ».
Complètement. Lâche-toi, mais ma cocotte, lâche-toi, c'est vraiment ça, c'est... Arrête de te regarder.
Vous avez fait de la danse.
Oui. C'est tout ? Oui, j'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse et j'en fais encore, je prends plus de cours, maintenant je prends j'ai des cours particuliers avec... C'est pas des cours vraiment particuliers, mais j'ai la chance de le faire avec ma grande sœur, qui est danseuse elle aussi, chorégraphe, que je trouve extrêmement talentueuse, Leïla K. Et j'ai dansé pendant très longtemps, effectivement, avant de chanter. Je me suis arrêtée de danser, j'ai découvert l'ennui et après j'ai découvert la musique. Et j'aime autant danser, je trouve que tout est important dans une interprétation. La manière dont tu respires, la manière dont, si tu le chuchotes ou si tu cries. Mais si tu chuchotes quelque chose et que tu fais des grands gestes, ou bien si tu cries et que tu n'en fais aucun, ça ne dit pas la même chose. Et c'est ça qui est tellement intéressant avec le spectacle vivant, et c'est pour ça que j'arrête pas d'inviter les gens, mais venez voir des concerts, parce que c'est là aussi que tu comprends tout. Tu vois un Brel, bon bah, ses chansons n'auraient pas eu le même impact s'il n'avait pas tous ses bras, ses longs bras qui disaient des choses, s'il n'y avait pas toute cette sueur, s'il n'y avait pas de... Et la danse fait partie intégrale pour moi du spectacle.
Zaoud Sagazan, Aspiration, c'est le titre à suivre.
quelques aspirations. Et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera. Cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette, à sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Dans le studio de Zao Tsagazan à Nantes, c'est totémique jusqu'à 10h. Et là, il y a des claviers que vous avez particulièrement.
Oula, oui. Là, je peux te faire exactement l'inventaire de l'album. C'est très simple. Il y a un roi dans l'album, celui de MS-20.
Ok, ça sonne comment ça? On peut l'entendre ou pas?
Alors... Mais oui. Tu vois le genre? J'ai l'impression que c'est une petite voix qui rassure. Un mix entre futuriste et extrêmement vieux, très rétro. C'est aussi un son qu'on a beaucoup entendu, même pour Brel. C'était comment on appelle ça?
Les ondes Martenot, je crois.
Exactement. Qui ont un peu le même genre d'univers.
Assez onirique.
Complètement. Il y a un côté très rêve, un peu cosmique. Et en même temps, je sais pas, il y a plein de choses dans ce son que j'adore. Sinon, il y a le Juno. Juno très... n'importe quoi avec un Juno.
Juno qui s'appelle Gérard, là, d'ailleurs.
Ouais, bon. Gérard, Juno Orange. Oh putain, tu vois, c'est genre de truc de blague que je ne côtoie pas. Mais bon, c'est pas grave, je les aime quand même. Il y a que des jeux de mots comme ça partout. Tu regardes bien.
Vous aimez ça, en studio, vous, ou pas?
J'adore quand il n'y a pas d'enjeu. J'adore commencer le studio, je déteste le finir.
Ah bon, pourquoi?
Bah parce que j'adore expérimenter. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un studio pour expérimenter. Par contre, j'ai du mal à faire des choix. J'ai du mal à me dire que c'est fini, que là c'est bon, c'est la bonne chose.
Que c'est figé.
Que c'est figé. Figé, je trouve que c'est terrible. J'adore figer des mots. Ça, j'adore choisir et me dire que ça sera toujours les mêmes mots. Par contre, quand j'ai pris 6 ans à trouver les bons mots, figer une instrumentale qui est... Parce qu'entre si tu mets un synthé ou un autre, les mots ne disent pas la même chose encore une fois. Là, j'ai du mal. Je crois que mes chansons, c'est un petit bébé et j'ai du mal à les habiller et à me dire que ça sera leur habit pour la vie.
La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en avril dernier. L'album était sorti depuis un petit mois. Et vous m'aviez dit « Le succès, ça rend con ».
C'était marrant de la part de quelqu'un qui ne l'avait pas vécu.
Là, l'album est un succès, les dates de la tournée sont complètes, vous êtes nommé 5 fois aux Victoires de la Musique, vous avez remporté 2 prix européens hyper importants.
Est-ce que t'es con ? Alors je sais que le succès peut rendre con. Aucun humain n'est fait pour être applaudi. Moi, c'est bête, mais des fois, je me dis, mais pourquoi on m'accueille comme ça, quoi ? J'ai l'impression d'être une princesse. Et je vais me dire, non, mais moi, ça va, j'ai pas besoin que tu me tiennes la porte et puis que je fasse ça. Non, madame, je me dis, mais... Voilà, on te prend pas pour quelqu'un de normal. Et donc, je pense que c'est très naturellement, tu peux devenir... penser que tu es sincèrement pas quelqu'un de normal et que tu es sûrement quelqu'un de mieux. Et je pense que c'est à partir de là que tu deviens con. J'ai la chance de ne pas me dire ça pour l'instant du tout, de pas réaliser. Je pense que c'est pas mal aussi. Je réalise pas du tout que moi, des fois, on me dit, mais t'es connu, Zao ? Je dis, mais je suis pas connu. Enfin, on me connaît un peu, mais ça va. Non, mais si, t'es connu. Je m'en rends pas compte. Et je pense que c'est très bien. Moi, je suis entourée de personnes merveilleuses, comme vous avez pu le voir juste avant. Tellement les pieds sur terre, et tellement juste passionnée. Je suis pas entourée de gens qui veulent faire du fric, qui veulent être reconnus, qui veulent être... ils sont là pour les bonnes raisons, ils sont là juste parce qu'ils aiment la musique, ils aiment les gens avec qui ils la font, et voilà, et moi c'est pareil. Donc je pense que ça permet de pas devenir trop con, on va encore dire ce mot, mais voilà, j'ai juste la chance de faire un métier extraordinaire qui effectivement fait du bien à pas mal de personnes, et c'est un pouvoir magique qu'on contrôle pas, mais c'est pas parce qu'on a ce pouvoir-là qu'il faut se prendre pour un dieu, et... on reste quelqu'un de... voilà.
Là, on écoute votre carte blanche.
Si t'as envie.
On fait ça ?
Ouais.
Alors.
Hop.
Ce matin, pour Totemic, Zao de Sagazan a choisi de reprendre « Moment parfait » de Philippe Catherine.
Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même. La plage est typiquement romantique. Je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Mon Parnasse, Poulenc Apollinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais.
Ça, c'était juste avant que j'arrive, en fait ?
On a fait ça ce matin.
D'accord. Pourquoi Philippe Catherine ? Et pourquoi cette chanson ?
Je trouve cette chanson magnifique. J'adore Philippe Catherine. Je trouve que ça fait partie des grands artistes qu'on a en France, que j'aime énormément. Et je trouve qu'un moment parfait, elle est d'une simplicité, d'une humilité. Et en même temps, elle raconte quelque chose qui est tellement beau que de se dire, et on n'en vit pas beaucoup dans la vie, je me demande bien si je l'ai déjà vécu un jour, mais de se dire, là, c'est un moment parfait.
Sachant que c'est extrêmement difficile d'écrire sur le bonheur, en plus.
Complètement. Moi, je ne sais pas le faire pour l'instant, j'ai beaucoup de mal. J'arrive à parler de l'espoir, j'arrive à parler de choses joyeuses, mais du bonheur. C'est pour ça que j'ai repris... J'aime bien reprendre des chansons comme ça. J'ai repris « Que la vie est belle » de Brigitte Fontaine. Pour l'instant, je ne sais pas le faire. Je compte bien réussir à le faire un jour. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand on parle du bonheur qui est accessible. Et que ce soit « Que la vie est belle » ou... Moment parfait, je trouve que c'est des chansons qui ont une humilité terrible et qui, du coup, embrassent les gens qui l'écoutent. Et tu te dis, ça t'invite à aimer la vie pour sa simplicité et pas à rêver la vie pour des choses qu'elle ne peut pas te donner ou en tout cas qui seraient difficiles à avoir. Donc, merci ces gens-là de donner la foi en la vie et de se dire, bon, voilà, il y a juste besoin d'un nuage, d'un cul nu dans l'eau et d'une petite plage, ce qui est déjà beaucoup, mais... Pour une nazérienne comme moi, c'est un plaisir simple parce que j'ai toujours vécu la plage. Et donc voilà, donc je trouve ça très beau.
Là, vous venez de l'évoquer, vos origines, à savoir Saint-Nazaire, dans quelle mesure ça compte beaucoup, ça, d'être de Saint-Nazaire, ce décor-là ?
Il y a des gens qui ont tendance à dire Saint-Nazaire, c'est moi, j'aurais jamais pu rêver mieux pour un enfant que de vivre à Saint-Nazaire.
Pourquoi ?
Déjà, c'est la mer, c'est la plage. C'est beau et en même temps, c'est pas non plus trop beau. C'est dur, c'est une ville qui a vécu des horreurs, qui a été complètement détruite par la guerre, qui a dû se reconstruire très vite, donc avec une certaine architecture qui ne plaît pas à tout le monde.
Beaucoup de béton.
Beaucoup de béton parce que sous-marine, il y a beaucoup de bateaux. C'est...
Béton et bateau.
Béton, bateau et béton et mer. C'est ça que je trouve assez dingue. Et je sais qu'une amie m'avait, qui vient aussi de Saint-Nazaire et qui fait elle de la photo, Estelle Avril que j'adore. On s'était dit toutes les deux, je sais plus comment on s'était dit, mais elle m'avait parlé de béton vu sur mer. Et c'était pour parler de ses HLM parce qu'elle elle a toujours vécu en HLM et les HLM étaient face à la mer. Je veux dire, ça c'est quand même assez rare. Et voilà, béton vu sur mer, c'est en même temps il y a ce côté béton et je trouve que c'est très proche de ma musique. La mer, le côté poétique, l'espoir, l'horizon à perte de vue et en même temps ce côté béton très
anguleux,
complètement électronique et beaucoup plus dark et c'est droit. Tu vois, alors que là où la mer elle est libre et on pourrait la dessiner de mille manières, une base sous-marine, elle est droite et comme ça, c'est à peu près l'opposé, les deux opposés, le béton et la mer. Et je trouve que c'est deux opposés que j'ai pas mal dans ma musique.
On va écouter le tube que vous avez choisi. Vous vous souvenez ce que c'est ou pas ?
Je me demande. J'ai choisi... Attends, je vais te retrouver, c'est pas possible. Bien sûr. Évidemment. Quel tube ! Pas qu'un tube, chef d'œuvre.
Vous dansez là.
T'as juste envie d'écouter quoi, c'est cool. Tellement bien.
C'est quel moment ça alors ?
Ça c'est un moment très important pendant l'enregistrement de mon album. J'ai choisi cette chanson parce que j'ai choisi en fait tout l'album. C'est tout l'album qui m'a
façonné,
qui m'a plus que façonné, qui m'a libéré. Là je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître niais, mais effectivement vous m'aviez demandé de trouver un tube qui avait eu un grand impact dans votre vie. D'abord, j'ai pensé à des tubes que j'écoutais petite, etc. Et puis, j'ai repensé à ce tube-là, qui est en fait The Wall, des Pink Floyd, l'entièreté de cet album, qui a été un moment très important dans ma vie. C'était en août donc, 2022. Ça faisait 3 semaines qu'on était en studio, et je sais à peu près à quoi va ressembler mon album. L'album dont j'ai tant rêvé, mon premier album. Ça fait 4 ans et demi que je suis dessus, etc. Donc, je sors de ce studio, et une semaine de vacances. Sauf que, pas ma coloc, je suis avec personne, je me retrouve toute seule dans mon appartement. Et là, je rentre dans une certaine folie, dans un des moments les plus bas de toute ma vie. Je passe 5 jours chez moi, je ne fais qu'une seule chose, c'est écouter cet album en boucle. À un moment, je l'écoute, je me dis, mais c'est un album extraordinaire. Et après, je l'ai réécouté, je me dis, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Et je reste pendant 5 jours... Et je ne sais pas quoi en penser, je dois ressortir normalement de cette semaine aussi avec des directives. Où est-ce qu'on va pour continuer, pour finaliser cet album ? Je me dis, bon bah là, faut que tu sortes, t'es pas sorti depuis 5 jours, t'as pas mangé, hein, tu prends un petit déj et tu sors, tu vas te promener. Là, je décide d'écouter les Pink Floyd, d'écouter The Wall. Je connais ce tube, mais je connais pas grand-chose d'autre de cet album. L'histoire de cet album, c'est un artiste qui va petit à petit se construire un mur, qui va rester enfermé dans ce mur et à la fin, qui va décider de le péter. Il déteste les gens, il a peur de tout, il développe beaucoup de craintes et surtout une paranoïa totale, une obsession sur des choses, etc.
Et c'était vous, quoi.
Voilà, c'était moi. Et là, plus je marche, plus j'écoute, plus je commence à sourire. Et là, je prends du recul sur ma position. Genre, mais c'est ridicule. Ma pauvre Kikette, ça va. Et ça finit par Break the wall, break the wall, avec cette musique extraordinaire que The Trial, The Trial, je sais pas comment on le dit. Et là, je me dis, mais bien sûr, mais pète ce mur, quoi. Et là, je décide d'envoyer cet album à tous mes copains, d'appeler ma famille, de reprendre goût à la vie. Je mange quelque chose. Voilà, c'est un album qui m'a permis de sortir du pire état dans lequel j'ai été de toute ma vie. Donc, je crois que c'est un bon tube. Et pas qu'un tube.
On appelle les garçons ?
On appelle les garçons.
Et pendant qu'on les appelle, il y a une petite séance photo.
Je vais vous montrer mon beau t-shirt craft vert.
Ah ouais.
C'est mon running gag.
Donc on a enlevé la polaire de la ressourcerie, là.
Oui, c'est vrai que je pourrais garder ce qu'il y a ressourcerie de Lille, en plus. Donc ça va bien avec où on est. On va montrer les deux.
Alors, c'est bon ? La photo.
Eh ben, si ça te va. J'ai un peu l'air méchante, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas l'air très sympa. T'as pas envie d'être pote avec moi, là, si ?
Oh, non. Je trouve ça... Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas posé du tout, quoi. C'est ça qui est bien.
Moi, très bien. Si ça te va, moi, ça me va.
La Symphonie des éclairs, c'est le titre du premier album de Zao de Sagazan, conçu avec Pierre Cheguillaume et Alexis Delon. C'est un album France Inter. Si Zao de Sagazan et ses gars en joueront un extrait pendant la cérémonie des victoires de la musique ce soir, ils sont en tournée, au moins jusqu'à l'automne, avec un Zénith à Paris le 13 mars, ils seront à la Laiterie de Strasbourg le 26 avril, ou encore au Dôme de Marseille le 15 novembre. Koya Nguyen réalise Totemic et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco prépare son et documentation. Jean-Baptiste Audibert choisit les disques qui composent la bande originale de l'émission. La semaine prochaine, je vous emmène dans le salon du comédien William Lebguil et les rendez-vous suivants seront avec Rachida Brakni puis Brigitte Fontaine.